On va se confier à Notre-Dame, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Notre-Dame du Très-Saint-Sacrement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors merci Père Jean-Baptiste pour ces mots d'introduction. Merci de votre accueil à chacun. Je sens que Jésus, dans son sacrement de l'Eucharistie, est aimé à Vannes, à Saint-Pédis. Donc merci de votre accueil, merci à toute l'équipe d'organisation, merci au Père de vouloir continuer à adorer, aimer Jésus, notre Sauveur au Saint-Sacrement. Je vais donner cette conférence que je donne très souvent dans toutes les paroisses. C'est la première conférence que je donne, qui est assez pratique, hein, et qui répond à la question qu'on me pose très souvent, hein, « Mon Père, je fais quoi pendant une heure ?» Est-ce que c'est long ? Une heure d'adoration ? Aidez-moi ! Donc, je vais essayer de répondre à cette question. Mais, pour commencer, petite histoire. J'ai vécu aux États-Unis, je voulais, après ma conversion, devenir capucin, parce qu'au moment de ma conversion, le Padre Pio est arrivé entre mes mains dans un livre, et j'ai été fasciné par le mystère du surnaturel. Hein, ce Padre Pio, le surnaturel, il est partout. Et donc, j'avais la foi, mais un peu endormie, et ça m'a profondément touché, et donc, au moment de ma conversion, je voulais ressembler au Padre Pio. Donc, je suis rentré chez les Capucins, les fameux dans le Bronx, vous avez peut-être entendu parler, à New York. Mais au bout d'un an, j'ai vu que j'avais pas les stigmates. Du coup, j'ai quitté. Alors, blague à part, le Seigneur m'appelait à autre chose. J'ai beaucoup reçu. Et donc, en étant là-bas, postulant et novice dans cette communauté de franciscains du renouveau, ils s'appellent, mais ce sont des capucins, j'ai rencontré un prêtre qui avait participé à l'organisation des JMJ à Denver, 1993. Et ce prêtre m'a raconté cette histoire. Donc l'équipe d'organisation a vu que sur le trajet de la papamobile du pape Jean-Paul II, il y avait un petit oratoire, toute petite chapelle avec le Saint-Sacrement. Et l'équipe, connaissant le pape, qui était un saint déjà, vous savez que le pape, parfois dans ses voyages, s'arrêtait quand il y avait le Saint-Sacrement pour prier, un quart d'heure, 20 minutes, c'était pas dans le programme. Et donc, ça mettait en retard. Et donc, l'équipe s'est dit, s'il voit la chapelle, il va vouloir s'arrêter pour prier, et on va être en retard. Donc, on ne veut pas être en retard. Donc, on va cacher la chapelle. Ils ont fait venir des arbustes dans les grands pots, des toiles pour cacher la chapelle. Le jour J arrive. La papamobile arrive. Passe devant ce petit oratoire. Et le pape dit « Stop !» La papamobile s'arrête, il montre du doigt les arbustes et les toiles, les draps. Qu'est-ce qu'il y a là ? Le prêtre penaud. Saint-Père, il y a une chapelle avec le Saint-Sacrement. Mais on avait peur que vous vous arrêtiez pour prier et qu'on soit en retard. Et le Saint-Père, souriant, a dit « Ce n'est pas bien d'essayer de cacher le Seigneur Jésus au Saint-Père. » Pourquoi cette histoire ? En fait, vous savez qu'il passait 2 à 3 heures par jour auprès du Saint-Sacrement. Hein ? Peut-être pas exposé à chaque fois, mais au tabernacle, à adorer Jésus. C'est un très grand prien, hein ? Alors qu'il a l'emploi de temps de pape. Hein ? mais 2 à 3 heures chaque jour, de cœur à cœur. C'est un très grand prieur. Vous savez qu'il est rentré au Carmel, enfin chez Carmes. Hein, il a été fasciné par Jean de la Croix. Il a appris l'espagnol pour lire Jean de la Croix en espagnol. Ah, c'est des génies. Et donc il avait cette dimension de prière, d'intériorité très forte. C'est ça qui a fait de lui un saint, son amour de la Vierge évidemment, mais aussi sa vie intérieure de prière personnelle. Et donc, c'était un mystique. Et donc, comme le Padre Pio, comme Marthe Robin, comme d'autres, il a senti de manière quasiment physique la présence de Jésus au Saint-Sacrement. C'est fou, hein? Mais c'est la vérité. Donc voilà cette petite histoire en guise d'introduction que je trouve très belle, et que je tiens donc d'un des prêtres qui avait participé à l'organisation des JMJ à Denver. Maintenant donc la conférence plus précisément sur le thème, je vais vous donner 8 conseils spirituels, 8 attitudes spirituelles pour bien vivre nos heures d'adoration. Première attitude, essayez de se décentrer de soi. Essayez de se décentrer de soi. Parce que, frères et sœurs, si vous ne l'avez pas encore remarqué, demandez au Seigneur de vous montrer plus clairement, mais nous sommes centrés sur nous-mêmes. Ça, c'est une conséquence du péché. Hein ? On se regarde le nombril, le moi, qui prend beaucoup de place, alors qu'on est fait pour l'autre, pour se donner. Hein, l'existence nous a été donnée pour la donner. À une épouse, à un époux, à une famille, au Seigneur plus directement, avec une vocation religieuse ou sacerdotale. Hein, on est fait pour se donner. Le cadeau de l'existence pour le donner. Et c'est là qu'on trouve la joie, hein, et le bonheur. Quand on regarde son nombril, on n'est pas heureux. Toujours un des frères américains dans le Bronx m'avait dit, c'était le maître des novices, « Tu sais, Dieu est Trinité. » Alors je lui ai dit ça à mon père quand même, je sais. Et il a créé l'homme et la femme à son image. J'ai dit ça aussi, je sais. Et donc il y a une Trinité dans l'homme. Ah, là j'ai dit ça, je ne savais pas. Il me dit, tu veux savoir ce que c'est la Trinité dans l'homme? Je dis oui. Alors je vous le fais en américain, parce qu'il me l'a fait en américain. La Trinité dans l'homme, c'est me, myself, and I. Et oui, hein, les conséquences du péché originel, le moi. Et donc l'école, l'adoration va être une école de sortie de soi, de se tourner vers Dieu, vers l'autre, avec un grand A. Et ne pas se regarder trop. Parce que le paradoxe, c'est que si on se regarde, si on se cherche, on ne se trouve pas. C'est le paradoxe de la foi qui perd sa vie, donc celui qui ne se recherche pas, qui ne se regarde pas, la trouve. Et celui qui croit la trouver, en se recherchant lui-même, la perd. Alors pour nous, à cause du péché, c'est douloureux, cette foi. Mais s'il n'y avait pas eu péché, on aurait été dans la joie de ne pas se regarder et de se donner, de ne pas penser à soi, d'être tout tourné vers l'autre, et on se serait trouvé dans la joie. Et maintenant, à cause des conséquences du péché, ça passe par la croix. C'est douloureux. On n'aime pas, parce que notre égoïsme est là, et il faut le tuer. Et on n'a pas trop envie. C'est le combat spirituel. Donc on essaye, notez bien le verbe, on essaye, parce qu'on n'y arrive pas trop en fait. Mais on essaye. Ça va être une école d'apprentissage à se tourner vers Dieu, vers le Seigneur. Alors comment concrètement? Eh bien, déjà, on manifeste notre adoration, notre prière avec notre corps. Et sauf si on est malade, avec une santé très fragile, des difficultés sérieuses, mais s'il n'y a pas de difficultés sérieuses, on se met à genoux devant le Seigneur C'est devant le Seigneur seul qu'on se met à genoux. C'est une profession de liberté. Celui qui se met à genoux devant son Seigneur, dit Benoît XVI, prouve par là et manifeste par là qu'il ne se mettra à genoux devant aucun pouvoir terrestre. Seul Dieu mérite qu'on se mette à genoux devant lui. Seul Dieu. Mais le Seigneur sait, si on a vraiment des problèmes de santé, que voilà, on est souffrant et que c'est... le Seigneur le sait. Mais si on a une santé correcte, bien on se met à genoux. Quelques minutes au moins, je ne vous demande pas de rester une heure. Si vous le souhaitez, vous pouvez. Mais quelques minutes, parce que mon corps, c'est moi. Mon corps, c'est l'expression de ma personne. C'est pas un truc que j'ai. On ne devrait pas dire « j'ai un corps », mais « je suis un corps ». L'âme et le corps sont tellement unis que c'est une unité substantielle duelle, mais c'est une unité en philosophie, en métaphysique. Et c'est pour ça que la mort, c'est nul et c'est horrible. Parce que l'âme et le corps séparés, c'était pas dans le plan de Dieu. C'est une conséquence du péché. L'âme et le corps séparés, c'est une monstruosité métaphysique, philosophique, existentielle. Il y a un théologien américain qui dit que Jésus a pleuré au moment de la résurrection de Lazare. Vous savez, les 4 jours où il sent mauvais, Jésus a pleuré devant la mort de Lazare parce qu'il l'aimait, donc il manifeste sa peine, c'est vrai. Et ce théologien dit, il a pleuré aussi parce qu'il a vu concrètement les conséquences du péché. La séparation de l'âme et du corps, qui est un monstre, ça ne doit pas arriver. C'est pour ça qu'on angoisse et que c'est terrible. C'est une violence qui est faite à la nature humaine, qui est faite pour être âme et corps, tellement unis que c'est la personne humaine. Donc mon corps m'aide à prier parce que c'est moi. Mais le corps ne suffit pas, vous avez bien compris, le cœur doit aussi manifester sa prière, son adoration. Et donc, on essaye de s'adresser au Seigneur Jésus, de faire des actes de foi, d'espérance et de charité. Seigneur, je crois que tu es là dans ce Saint-Sacrement. Merci pour ta présence eucharistique. Mais viens au secours de ma foi. Après, vous formulez comme vous voulez. Mais on fait des actes de foi. Seigneur, je crois que tu es là. Par ta parole, mes sens me disent autre chose. Je vois quelque chose qui ressemble à un petit bout de pain. Mais je le crois, parce que tu me l'as dit. Ceci est mon corps. Je te crois sur parole, Seigneur. Je manifeste ma foi, mon espérance. Seigneur, j'espère en toi. J'espère que tu prends soin de moi dans ma vie. Je te confie ma vie. Je te demande de me guider. Mais j'espère dans ta présence, dans ta providence, que tu prends soin de moi, que tu m'aimes, que tu comptes mes cheveux, voilà, parlez comme vous voulez, mais l'espérance et la charité. Seigneur Jésus, je t'aime, je veux t'aimer davantage, je veux te donner toute ma vie, je veux te connaître davantage, devenir ton ami, etc. Alors les saints nous aident. Je vous rappelle que les saints ne naissent pas saints. Quand j'étais petit, il y avait des pubs pour le flambi. On tirait sur la languette et ça tombait, vous voyez. Et donc, il tirait sur la languette une cheminée et paf, il y a le Père Noël qui tombait. Le saint, c'est pas ça. On tire pas sur une languette. Le saint qui arrive, coucou, je suis saint. Bon, le saint, il galère comme nous. C'est un grand frère, c'est une grande sœur, un pêcheur comme nous, et qui a pris le même chemin. Alors peut-être qu'il est allé plus loin et plus haut, sans doute. Mais il a pris le même chemin. Il a eu les mêmes épreuves, les mêmes impasses peut-être. Donc il nous aide pour aller plus loin et plus vite vers Dieu. Alors Saint-Pierre Jérémie nous dit qu'il faut commencer par l'un des 3 actes. Foi, espérance, charité, à votre avis. Lequel? Au début? La charité. Parce que la charité, c'est la plus grande des 3. Bon, c'est pas un péché si on commence par la foi, Mais il nous encourage à commencer par l'amour. Et oui, on commence par lui dire qu'on l'aime. Bon, quand on lui dit qu'on l'aime, en fait, on croit qu'il est là. Donc on manifeste déjà un peu notre foi. Je cite Saint-Pierre Julien Emma. Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour et vous ouvrirez délicieusement votre âme à l'action de Dieu. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin. Et voilà le drame, le moi. Vous voyez, on commence par peut-être sa misère. Oh Seigneur, je suis un pauvre pécheur, je suis misérable, je suis encore tombé dans ce péché. Mais là, on commence par soi. On se trompe de chemin. Et le Seigneur, il sait très bien qu'on est des pauvres pécheurs. Donc on commence pas par son péché. Merci Seigneur pour ton amour. Vous voyez, on commence par lui. Ou bien, si vous commencez par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa maman avant de lui obéir? L'amour est la seule porte du cœur. Le véritable secret de l'amour est donc de s'oublier. Et là, il est difficile, hein? S'oublier pour exalter et glorifier le Seigneur Jésus. Le véritable amour ne regarde pas ce qu'il donne, mais ce que mérite le bien-aimé. C'est beau, hein? Jésus mérite tout. Il est Dieu, la beauté infinie faite homme, notre Sauveur, notre Rédempteur, l'époux de nos âmes. Donc voilà le premier point, on essaye de se décentrer. Vous allez voir, pour tous les points, on peut mettre « essayer » au début. Est-ce qu'on n'arrive pas trop, mais on essaye. Deuxième point, deuxième attitude spirituelle, la simplicité dans nos rapports avec le Seigneur Jésus. Parce que, chers amis, qu'est-ce que nous sommes compliqués? L'homme est tellement compliqué. Pourquoi? Précisément à cause du péché, on est blessé dans notre relation à Dieu, à nous-mêmes et aux autres. On n'a pas été aimé parfaitement par nos parents, par notre époux, par notre épouse, par nos enfants. Hein, il y a des blessures. On est tous pécheurs et on ne s'aime pas parfaitement et on est blessé et donc on a peur d'aimer. Hein, on a peur. Est-ce que je vais être accepté? Est-ce que je vais être aimé même avec mes misères? Même si je suis un boulet, est-ce qu'on m'aime? Et donc on a peur d'être rejeté, de ne pas être accueilli, de ne pas être accepté, d'être jugé, d'être je sais pas quoi. Hein, donc, on est compliqué, on ne sait pas quoi dire, et ça se transpose sur le plan de notre relation à Dieu. Hein, et on a du mal à être cœur ouvert, simplement, dans la confiance. Hein, est-ce que le Seigneur m'aime vraiment comme je suis, etc. On doute. Mais les saints nous appellent à la simplicité dans nos rapports. Hein, on lui parle avec son cœur, tel qu'il est. Le père François Liberman, il n'est pas canonisé, mais je pense qu'il y a des chances qu'il soit au ciel, il a fondé les pères du Saint-Esprit, les spiritains. Il dit « L'adoration, voilà une grande affaire, mais une affaire bien simple. Elle doit consister en un repos simple, paisible, plein de confiance devant notre Seigneur. Voilà tout. Tenez-vous devant Jésus comme un petit enfant devant son Père, pas davantage. Contentez-vous d'un regard de l'âme vers lui de temps à autre, toujours avec le désir calme d'être à lui tel que vous êtes. Ne cherchez pas davantage. » Le Seigneur nous prend tel que nous sommes. Alors, il va nous changer, hein. Il va nous sanctifier petit à petit, mais il nous accueille tel que nous sommes avec nos casseroles, nos blessures, il nous connaît parfaitement, il sait tout de nous. Et lui seul est capable de nous aimer parfaitement. Donc on lui parle simplement, Jésus. Mais on lui parle. On le regarde, on lui parle, on s'adresse à lui, avec la simplicité des bons acteurs. Alors parfois, c'est bien de parler, mais après on peut se taire, parce que le Seigneur, il sait tout déjà. Hein, donc on reste sous son regard, simplement. dans ce thème de la simplicité, peut-on s'aider d'un livre? Est-ce qu'on peut avoir la simplicité de s'aider d'un livre? Où il y a de la tension. Réponse, oui. C'est pas moi qui le dis, enfin si je le dis maintenant, mais c'est Sainte-Thérèse d'Avila, qu'on a fêté hier. Elle raconte dans sa biographie, la vie écrite par elle-même, que pendant 14 ans, alors qu'elle était déjà au couvent, elle ne pouvait pas prier en silence, à l'oraison ou à l'adoration, sans l'aide d'un livre. Alors si Sainte Thérèse d'Avila, c'est un peu la star de la prière, hein, la contemplation, elle écrit des bouquins dessus, que tout le monde dans l'église lit depuis. Hein. Tous les prêtres, tous les papes, tous les gens qui sont intéressés par la vie intérieure, c'est avec Jean de la Croix, avec d'autres, hein, mais c'est le top. Donc si elle a dû c'est les derniers pendant 14 ans, nous, hein, on peut y aller. Mais, ah oui, je suis un peu pénible des fois. Mais, attention, le livre peut se transformer en piège. J'arrive à l'adoration, je dis bonjour au Seigneur, je m'installe, j'ouvre mon livre, et je lis pendant 55 minutes. Et là, le livre, au lieu d'être une aide, devient un obstacle. Imaginez vous inviter à dîner chez vous, vous préparez la table, vous sortez le bon vin, les invités arrivent, vous leur présentez tous les mets, et puis vous allez vous asseoir dans votre fauteuil pour continuer votre roman qui vous passionne tant, pendant 2 heures ou 3 heures, et après vous allez voir vos invités. Bon, merci d'être venus, c'était sympa cette soirée, hein? Pas trop? Pas trop parler? Hein, c'est un peu l'idée. Donc le livre doit être une aide, un soutien. Mais attention, parce que comme l'adoration c'est dur, je vous vends pas le produit, hein. Je vais y venir sur les difficultés. C'est pas facile, c'est un combat. Et bien on a la tentation de fuir dans le livre. Ça passe plus vite. Donc le livre, une aide, n'est pas un obstacle. Alors, peut-être 5-10 minutes dans la première demi-heure, et puis 5-10 minutes dans la deuxième, mais sans doute pas plus, vous voyez. Une aide. Alors, quel livre on prend? On ne vient pas avec son journal d'équipe. On prend la Bible, l'Écriture sainte. Venez avec votre Bible, le Nouveau Testament en priorité. Jésus, dans le Nouveau Testament, on apprend à le connaître en présence de Jésus qui est là devant nous. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, on médite l'Écriture, l'Évangile. Toute la Bible, évidemment, mais peut-être en priorité l'Évangile. Vous savez, le Seigneur, si on médite la Bible, l'Évangile en sa présence, je peux vous dire qu'il va nous évangéliser, il va nous illuminer, notre foi va grandir. Alors on peut aussi prendre d'autres livres, hein, des livres de prière, de méditation, de saints, enfin voilà, évidemment, hein, mais privilégier quand même l'Écriture sainte et l'Évangile. Troisième point. Ne pas avoir peur de sa pauvreté. Mon père, je suis nul, je ne sais pas prier. Bienvenue au club. On est des pauvres, les amis. Hein. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave d'être pauvre? Parce que le pauvre, il va se tourner vers Dieu pour lui demander de l'aide. Si on se croit bon, ah moi je suis un bon adorateur, moi je sais prier, je rentre tout de suite dans la prière, ben, on aura tendance à peut-être oublier de se tourner. Vous savez que les moines, à chaque office, ils commencent comment? Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. À toutes les heures, 7 fois le jour. C'est des pauvres, les moines. L'homme est un pauvre qui demande l'aide. Donc pas d'excuses. Ah non, moi mon père, je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas religieux, l'adoration c'est pas pour moi, je ne sais pas faire. Tu es pauvre, tu es nul, tu es un bon adorateur potentiel. Toujours le père Emma, Saint-Pierre-Julien Emma. Rappelez-vous bien que notre bon Jésus préfère la pauvreté de notre cœur aux plus sublimes pensées empruntées aux autres. C'est souvent le fruit d'un subtil amour-propre, de l'impatience, de la lâcheté, de ne pas vouloir aller à notre Seigneur avec sa propre misère ou sa pauvreté humiliée. Et c'est cependant ce qu'il préfère à tout, ce qu'il aime, ce qu'il bénit. Quel sauveur nous avons, hein ? Jésus aime ma pauvreté, il la bénit. Une autre personne qui est sans doute au ciel mais qui n'est pas canonisée, elle s'appelle Catherine de Bar, ça c'est son nom à la ville, et en religion, mère Mechtilde du Saint-Sacrement. Elle a fondé une congrégation de bénédictines adoratrices perpétuelles, 16e, 17e siècle, dans ces eaux-là. Donc elle s'y connaît quand même un petit peu, hein, d'adoration, et elle dit à ses novices qui arrivent, soyez fidèles à demeurer en la présence de Dieu sans pouvoir rien faire. Ah, la question qu'on me pose toujours, mon père, qu'est-ce que je fais pendant une heure ? Pas rien. Enfin, je m'explique. On n'arrive pas pour se tourner les pouces et pour rêvasser. Mais l'adoration, c'est d'abord l'œuvre de Dieu en nous. C'est plus Dieu qui travaille que nous. Nous, on a un effort à faire, c'est vrai. Être présent, s'efforcer d'être présent à la présence. Alors, si je devais résumer, c'est ça, hein. Notre effort, c'est ça. Mais en fait, on laisse faire Dieu. On n'est plus à la première place, on n'a plus l'initiative, c'est plus nous qui gérons. On est avec Dieu. Alors ça, c'est dur pour l'orgueil de l'homme. Parce que l'homme aime bien maîtriser, faire, planifier, organiser, appuyer sur un bouton. Hein, mon prof de philo qui s'appelle Fabrice Hadjadj, que j'ai eu au séminaire, j'ai beaucoup aimé, beaucoup de sagesse, il disait, il reprenait ça d'un autre philosophe, il disait qu'on était dans une push button society. Je clique, j'ai tout de suite. Et ça, c'est pas la vraie vie. C'est le virtuel. Alors, c'est pratique, j'avoue, hein. J'aime beaucoup les livres, et donc, je clique de temps en temps chez Amazon. Et je lis le lendemain dans ma boîte aux lettres. C'est un côté pratique, évidemment, c'est pour ça que ça marche. Mais c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est la croissance lente de l'humain. Les plantes, la création. Alors, Catherine de Bar, mère Mechtilde, continue. N'ayez point de répugnance d'être en la présence de Dieu sans rien faire, puisqu'il ne veut de vous que le silence et l'anéantissement. Vous ferez toujours beaucoup lorsque vous vous laisserez et abandonnerez sans réserve à sa toute puissance. C'est ça qui est dur. Il faut lâcher et le laisser agir. C'est dur. Soyez fidèles en ce point. Ne vous affligez pas de vos distractions. Laissez-les passer et demeurez humblement au pied de Jésus. Ah, des distractions. Vous voyez, les saints ont des distractions. Tout le monde a des distractions. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ? Ma prochaine réunion, les soucis peut-être dans ma famille, mes enfants. Moi, j'avoue, c'est comment va jouer le PSG au prochain match. Est-ce que Messi sera rétabli pour faire une passe à Neymar et Mbappé. Chacun sa misère. Bon, on a des distractions. Il ne faut pas les poursuivre. On se rend compte qu'on a été distrait. Vous voyez, on est parti. Le corps est là, mais notre esprit est parti, je ne sais pas. Je m'en rends compte. Au bout de 5, 10, 15, 59 minutes peut-être. Ah, pardon, Seigneur. Oh là là, j'étais parti. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, vraiment, je suis un gros nul, j'arrête l'adoration. Non, mais vraiment, je ne suis pas recueilli. Non, ça, c'est de l'orgueil. Un acte d'humilité. Pardon, Seigneur, j'étais parti. Je reviens. Et si je repars ? Je m'en rends compte. Ah, pardon, Seigneur, vraiment, je suis encore parti. Pardon ? Je reviens. Aide-moi à rester. Thérèse d'Avila dit un jour, après son heure sainte, « Mon Seigneur, je suis parti 14 fois aujourd'hui. » Et Jésus lui répond, « Oui, mais tu es revenu 14 fois, Thérèse. » Alors la distraction, hein, on n'en est pas maître. Hein, notre imagination qui part comme ça, c'est, on ne peut pas contrôler. Hein, Thérèse d'Avila, là, encore une fois, elle, appelle l'imagination, non pas la fée du logis, mais la folle. Logique. On n'arrive pas, mais le Seigneur le sait très bien tout ça. Il sait très bien que ça, c'est, vous savez, c'est conséquence du péché. Hein. S'il n'y avait pas eu le péché, toutes nos facultés, toutes nos puissances auraient été soumises. Et il se contrôle au service du bien et de l'amour. Mais le péché est tout sur-dessus dessous. Et donc, on ne contrôle plus nos passions, notre imagination, part dans tous les sens. Donc, acte d'humilité. Pardon, Seigneur, j'étais parti. Je reviens. Alors, pourquoi c'est dur d'apprendre à laisser faire le Seigneur, de ne pas être le principal acteur de la prière ? Parce qu'on est dans un monde de l'activité, de l'activisme, de l'efficience, de la rentabilité. Montre-moi tes chiffres. Montre-moi en efficacité. Alors c'est valable hein, dans le business, évidemment, c'est valable, bien sûr. Il faut gagner sa vie, il faut être rentable, évidemment. Mais c'est pas la même logique que le Seigneur. Et donc, dans la logique du Seigneur, c'est un peu différent. Et heureusement, Saint Jean de la Croix nous dit « Le plus petit acte de pur amour a plus de prix aux yeux de Dieu. Il est plus profitable à l'Église et à l'âme que toutes les autres œuvres réunies. » Ouh là là ! C'est quoi ce petit acte de pur amour qui a une puissance extraordinaire, plus que toutes les œuvres qu'on pourrait se fatiguer à faire, même pour le bon Dieu ? Je vais essayer d'être synthétique. Pour le Carmel, Saint Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, la vie humaine, fait de croissance, hein. On naît, ensuite on se nourrit, on grandit, il y a l'enfance, l'adolescence, une première crise ado, l'âge adulte, la maturité, parfois une deuxième crise, une crise du milieu de vie, ça peut arriver, hein, puis après la maturité, puis après le déclin pour la vie humaine. Et bien dans la vie spirituelle, c'est analogue. Il y a d'abord la naissance, c'est le baptême. Ensuite, il y a la croissance avec la vie des sacrements et la vie de prière. Mais la vie spirituelle est appelée à grandir, à prendre un chemin de croissance. Et c'est pas automatique. C'est pas parce que j'ai 50 ans que j'ai 50 ans de vie spirituelle, que j'ai la maturité spirituelle de 50 ans. Vous voyez, je peux avoir 50 ans et être resté au niveau grande section. Et inversement, Thérèse de Lisieux, à 12-13 ans, elle était déjà sans doute très très avancée sur le plan spirituel, mais une maturité très grande. Vous voyez, c'est pas corrélatif à l'âge. Et donc, il faut que nous prenions ce chemin de croissance spirituelle par les sacrements et la vie de prière personnelle, la contemplation, l'oraison, l'adoration. Et donc, il y a trois grandes étapes, un peu comme dans la vie humaine. Il y a la première étape, l'enfance, on va dire, jusqu'à l'adolescence, qui est l'étape de purification, où le Seigneur purifie. Alors là, on est un peu actif, on essaie d'arrêter le péché, d'arrêter les vices, on va se confesser, on travaille les vertus, etc. purification. Première crise, on appelle la nuit, une première nuit dans notre cœur, une première difficulté, une première épreuve. Une nuit des sens. Pas des sens physiques, mais des sens de l'âme. J'ai pas le temps de me... Voilà, première crise. Ensuite, il y a une deuxième grande étape, illumination. Après la purification, l'illumination. Là, il y a beaucoup de lumière. Dieu donne sa lumière à l'âme, parce qu'elle a déjà enlevé beaucoup de saleté. Donc elle est capable de recevoir la lumière. Deuxième crise, la nuit de l'esprit, qui est assez terrible, d'après les saints. C'est une dépression plus, parfois avec des tentations de désespoir, de grands ténèbres, de se sentir abandonné de Dieu, rejeté par lui. Voilà, c'est très dur. Et puis après, l'union. On a été tellement purifié, tellement illuminé par Dieu qu'on peut s'unir parfaitement à lui. Eh bien, le petit acte de pur amour, c'est quand on est dans la troisième grande étape. Et là, quand on dit « Jésus, je t'aime », on fait plus de bien à l'Église que tout ce qu'on peut s'exciter à faire dans la première grande étape. Et oui, ça calme, hein. Ça calme sévère, hein. Vous voyez l'importance de la vie spirituelle, de prendre ce chemin très sérieux, hein, de prière, d'adoration, de sacrement, évidemment. Alors chacun à son niveau, hein. Vous, c'est pas par votre heure hebdomadaire, un peu plus peut-être pour certains, hein, mais pas tous. Mais c'est ça qui va vous. Alors avec le chapelet aussi, avec peut-être un peu de lecture de la Bible, enfin, voilà, d'avoir un espace pour la vie intérieure silencieuse de prière. Donc, vous voyez la nécessité de prier. Hein. Alors, je vais peut-être vous décourager, mais il faut que je vous le dise quand même, parce que c'est les saints qui le disent. Un père de sept fonds qui s'appelait le père Jérôme, c'est pas moi. Un moine fameux, il a dit, après 5000 heures d'oraison, d'adoration, vous avez fini l'introduction. La propédeutique. Oups. Donc c'est pas parce qu'on a fait un an d'adoration une heure par semaine qu'on est déjà arrivé, hein. Alors il disait ça pour les moines, hein. Le Seigneur, en fonction des états, hein, vous en 15 minutes, à mon avis, vous donne ce que moi j'ai besoin de 5 heures, quoi. Parce que je suis prêtre, que je suis missionnaire eucharistique, hein, donc, voilà, il faut relativiser aussi un peu ce qu'il dit, mais voilà, il faut un certain nombre de temps de fidélité pour commencer à vraiment plonger. Quatrième point. Si nous, on ne fait rien, on apprend à laisser faire le Seigneur, avec notre petit effort quand même, évidemment, d'être là, Jésus, lui, il travaille non-stop. Vous savez qu'en philosophie, en théologie, on dit que Dieu est acte pur, pure actualité, pure activité, mais très mystérieusement paisible, hein, et sans sortir de lui-même. Et donc, quand on va adorer, Jésus travaille mon âme, mon cœur, ma personne, il m'évangélise. Je ne m'en rends pas forcément compte tout de suite, mais il m'évangélise. Il m'illumine, je parlais de la lumière, il me purifie. Il m'unit à lui, petit à petit. Une image, pour faire comprendre. On demande à Michel-Ange, comment vous faites pour faire une si belle statue à partir d'un vulgaire bloc de marbre ? Réponse de Michel-Ange. Oh, mais c'est très simple, j'enlève juste ce qu'il y a en trop. Ça, c'est le génie qui voit la statue dans le bloc. Moi, je ne la vois pas. Hein. Et lui, il la voit. Il enlève ce qu'il y a autour pour la faire venir. C'est merveilleux. Ben, c'est un peu ça qui va se passer. Nous, on est ce bloc de marbre avec l'image de Dieu qui est un peu recouverte par notre misère et notre péché. Et Dieu va petit à petit travailler avec son petit marteau, son petit burin spirituel. Il va faire apparaître, enlever ce qu'il y a en trop. Enlever notre orgueil, il va nous rendre plus humbles, il va nous travailler, il va enlever. Alors vous savez que la sainteté, dit Saint Bonaventure, c'est beaucoup d'ablation. On enlève Parce que nous, on est encombré de tout un tas de choses qui sont inutiles et qui empêchent le Seigneur d'agir. Et donc, ça peut faire un peu mal. Parce que Dieu va me montrer qui je suis. Ça, c'est pas très très plaisant. Hein. Il va me montrer ma misère. Pour m'en guérir. Pas pour m'accuser et me mettre dans le trou. Précisément pour m'en faire sortir. Vous voyez, si vous vous trouvez très orgueilleux et très misérable, c'est que vous êtes près de Dieu. Si vous croyez bien, saint, c'est que vous êtes loin de Dieu. C'est le paradoxe. Plus on s'approche de Dieu, plus la lumière de Dieu se fait vive, plus par contraste, je vais voir la saleté de mon cœur. Vous voyez, dans une pièce qui n'a pas été ouverte depuis très longtemps, qui est dans les ténèbres, quand on rentre dedans, on ne voit pas la saleté, les toiles d'araignée, la poussière. Vous ouvrez les volets avec un beau soleil vanté comme aujourd'hui. C'est très très sale. C'était sale avant qu'on le voie. Eh bien, c'est ça, hein. On s'approche de Dieu, il va mettre la lumière dans notre âme et on va voir, on va dire, ah, mais je suis à ce point orgueilleux, égoïste. Oui. Mais c'est pour, en même temps, c'est le processus de guérison, hein. Attention, hein, c'est pas du désespoir. On voit son mal précisément pour en être guéri. Donc réjouissez-vous si vous trouvez la saleté dans votre cœur. C'est que Jésus vous montre avec sa lumière et qui vous est en train de vous en sortir et de vous guérir. Donc ma foi va augmenter, mon espérance va augmenter petit à petit. On aimerait bien que ça se fasse d'un coup. On appuie sur un bouton, mais c'est pas ça. Petit à petit, il faut persévérer. Alors, c'est petit à petit pour nous, mais le Seigneur montre ce qu'il fait parfois, et il le fait parfois de manière fulgurante chez certains. Un exemple, André Frossard. Vous connaissez sans doute de nom au moins, hein. Il était le fils du premier secrétaire du Parti communiste français dans les années 50, je crois. Donc, Parti communiste, Jésus, pas trop. Et il raconte sa conversion. Alors, j'ai trouvé ça dans son livre. Je vous la lis. Je cite. En visitant par hasard une église, peut-être pas tout à fait par hasard, je vis au-dessus du maître-autel un vaste appareil de plantes, de candélabres, d'ornements, qui était dominé par une grande croix, portant en son centre un disque d'un blanc mat. Je n'avais jamais vu d'ostensoir habité, ni même, je crois, d'hostie. Et j'ignore que je suis en face du Saint-Sacrement. La signification de tout cela m'échappe. Mais c'est alors que commence l'avalanche à rebours. Je ne dis pas que le ciel s'ouvre. Il ne s'ouvre pas. Il s'élance. Il s'élève soudain. Fulguration silencieuse. Évidence de Dieu. Irruption de lumière. Joie du naufragé. Tout est dominé par la présence de celui dont je ne pourrai jamais plus écrire le nom sans que me vienne la crainte de blesser sa tendresse, devant qui j'ai le bonheur d'être un enfant pardonné, je suis catholique. Un instant. Comme il y a 2000 ans, mes amis. Des conversions, des guérisons auprès de Jésus il y a 2000 ans, ça continue. Au Saint-Sacrement, en un instant, on passe de l'athéisme à la foi, par le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, c'est l'acte de foi le plus méritoire pour nous, de toute la foi, de tous les articles. Pourquoi ? Parce que ça va contre nos sens, et que la connaissance humaine passe par les sens. Et donc, il faut croire le Seigneur contre le témoignage de notre nature humaine et de nos sens. Et si on fait un acte de foi en la présence réelle de Jésus au Saint-Sacrement, implicitement, nous disent les théologiens, on fait un acte de foi dans tout le credo. Parce que si je crois que Jésus est au Saint-Sacrement, je crois que Jésus existe, je crois qu'il est Dieu, je crois que l'Église produit le Saint-Sacrement par les prêtres, je crois au sacerdoce, je crois en Dieu, à la Trinité, etc., etc., etc. Vous voyez la nécessité d'amener les âmes à Jésus Eucharistie. Moi, j'amène les enfants toutes les semaines du catéchisme, j'ai 25 enfants, toutes les semaines, on a 15 minutes, 20 minutes d'adoration. Et ils plongent, hein. Ils aiment ça. Alors, il faut les occuper un peu quand même, hein. Il faut les faire chanter, on dit une dizaine de chapelets, un beau temps de silence, mais j'ai vu de mes yeux, dans leur attitude, chez certains, pas tous, mais c'est beaucoup, qu'il y avait la foi qui était arrivée. Ils y croyaient vraiment que c'était Jésus dans le Saint-Sacrement. Et là, on a tout gagné, hein. Enfin, tout. Beaucoup.